Chapitre 3e. Le dîner était depuis longtemps fini et Miss Eva servait le thé chez Norton. Elle tendait de ses petites mains fines des tasses de sèvres aux invités de son oncle, tandis que Miss Arabella Dixon, au piano, très entourée par M. de Bernière, le docteur Farjas et un gros homme, déjà grisonnant, qui riait très fort, flirtait à la fois avec la musique et avec les musiciens. Norton fumait un cigare, en regardant la mer, tout en causant avec un immense personnage, haut comme un peuplier, le colonel Dixon, le père très glorieux de la belle Miss Arabella. Il était si haut, ce colonel, avec sa tête pointue à barbe longue, rousse, striée, de poils gris, et sortant d'un énorme col blanc, serré comme un col d'uniforme. Il était si long, si élancé, qu'en apercevant au bout de son corps la fumée de son Londres, on eût pu, dans l'ombre, le prendre pour une haute cheminée d'usine en combustion. Sa femme, la colonelle Dixon, énorme et grasse, évasée sur un canapé, tintait de cognac le thé blond que lui avait apporté Miss Meredith, et contemplait de ses gros yeux bleus, rêveurs, le groupe formé là-bas, sous l'immense abat-jour de la lampe, par son Arabella entourée d'habits noirs, parmi lesquels ce jeune Bernière qui, disait-on, était un bon parti. Dans un coin du salon, ouvert sur l'horizon criblé d'étoiles et sur la longue file de pointes d'or aperçues dans la nuit, au loin et qu'étaient les lumières du Havre, dans un angle, sous de larges plantes de Nice, aux éventails verts, luisants et frais, Sylvia causait avec Madame Montgomery, tandis qu'une jeune fille, brune, jeune et déjà rondelette, avec un type israélite assez prononcé et une belle carnation mordorée de juive, feuilletait un album et causait médecine avec le docteur Farjas, un peu étonné. « Jolie, cette mademoiselle Offenburger avait dit tout à l'heure Liliane Montgomery à Mrs. Norton. Très jolie. Et savante, oh, savante. Elle fait repasser son baccalauréat au docteur, je parie. » La colonelle Dixon, lorsqu'elle cessait de braquer ses gros yeux sur sa fille et les reportait sur mademoiselle Offenburger, tournait avec une sorte de précipitation sa cuillère dans sa tasse de thé. Elle avait, avec son intérêt de mère, la vague perception que la fille du banquier, ce gros M. Offenburger qui riait là-bas d'un rire guttural en se penchant sur la partition d'Arabella, oui, elle devinait que cette jolie petite juive allemande pensait à ce M. de Bernière, qui, pour le moment, ne semblait pas s'en inquiéter. Joli garçon, Bernière, aimable, spirituel et vicomte. Il pouvait faire un mari pour Arabella. Il était un des 200 ou 300 candidats possibles que la belle américaine avait déjà rencontrés sur la plage. Il plaisait surtout à Madame Dixon, parce qu'il était pessimiste et que la colonelle, ayant éprouvé des déceptions elle aussi, trouvait que la vie était amère, très amère. C'est bien peut-être pourquoi la colonelle sucrait si fort son thé qu'elle prenait à l'état de sirop alcoolisé. Et ce n'était pas la première fois qu'elle avait remarqué, la colonelle, les coups d'œil particuliers de mademoiselle Offenburger à M. de Bernière. Certainement, certainement, le jeune vicomte n'était pas indifférent à la jolie sémite, et quant à Bernière, lui... Mais Madame Dixon comptait sur les épaules d'Arabella, les plus admirables épaules que put montrer une belle fille de 20 ans. D'ailleurs, en comparant Arabella à mademoiselle Offenburger, Mrs. Dixon n'était pas inquiète. Sous la lampe, debout près du docteur, Hélène Offenburger était exquise, avec ses grands yeux doux, noirs, voilés de cils comme d'une dentelle, et ses avides lèvres rouges et son profil arabe, ses oreilles fines, sous les bandeaux lourds de ses cheveux. Mais Arabella, là-bas au piano, grande, superbe, sa tête de statue grecque posée sur les splendeurs d'une poitrine éclatante de blancheur, à peine rosée par les bougies, cette admirable Arabella, comme coiffée d'un casque d'or avec ses cheveux cuivrés, soyeux, était irrésistible. Oui, Arabella, insolente de beauté, de santé, de force, rejetait dans l'ombre, dès qu'on la regardait, la petite juive, qui paraissait tout aussitôt, par comparaison avec ce bloc de marbre vivant, trapu, minuscule et noiraude. Quant à Eva, la colonelle ne s'en occupait pas. Miss Meredith allait et venait, toute légère, rieuse, laissant là le canapé où causaient Sylvia et Liliane. Allant au piano où Arabella mêlait les airs d'opérette aux romances américaines, au window où Norton fumait avec le colonel, et gay, bonne fille, aimable, jetant çà et là une étincelle ou une malice de son esprit et une fusée de sa gaieté. Mais quoi, cette brunette, Eva elle-même, élancée, railleuse, amusante, ne pouvait pas, aux yeux difficiles de Madame Dixon, entrer en ligne de compte avec Mademoiselle Offenburger ou Arabella. Elle semblait, à la colonelle, une comparse dans ce salon où, évidemment, Miss Dixon remplissait le premier rôle. Et l'important pour Madame Dixon, c'était que M. de Bernière ne s'occupait point d'Eva, mais point du tout. Pour la colonelle, les femmes mariées ne comptaient pas plus que Miss Eva ou que les hommes mariés. Elle eût pu cependant admirer un peu aussi les deux femmes qui causaient en face d'elle, Sylvia Norton et Mrs. Montgomery. La lumière d'une applique posée au-dessus de la tête de Liliane nacrait ses bras nus, ronds et jeunes, et noyait d'un éclat de soie les épaules pâles, le cou blanc, avec la masse de cheveux d'un blond fauve retroussé d'un bloc. Une sorte de réédition d'Arabella, la même insolence de beauté, avec plus d'embonpoint, une vitalité plus spéciale, quelque chose de plus mûr et plus attirant. Une neige qui ne jette pas de froid, avait dit un soir M. de Bernière. Et à côté de Liliane Montgomery, Sylvia Norton, affinée, frêle, une sorte de Parisienne de New York, séduisante avec sa bonne grâce un peu triste, sa douceur mélancolique, la vague tendresse de ses yeux qui regardaient au loin, là-bas, vers la côte, les étoiles d'or et le ciel. Charmante, cette Sylvia, l'air souffrant, tout à fait jolie dans sa toilette noire, toute de satin, avivant la blancheur de son visage de vierge, et de ses mains alanguies et qui, c'était une impression pour ceux qui la voyaient dans sa grâce tendre, semblait porter le deuil de quelque chose de disparu, de brisé, d'envolé. Elle s'aimait beaucoup, ces deux femmes d'un caractère si différent, et s'aimait précisément peut-être parce que le contraste de leur nature les avait, dès le premier jour de leur rencontre, bien attachées l'une à l'autre. Liliane était en France la seule personne que Madame Norton pût appeler son amie. Dans leur commun souvenir d'enfant à New York, Sylvia et Madame Montgomery se revoyaient, échangeant leurs projets d'amour dans des causeries de jeunes filles. Et lorsque, séparées par la vie, Liliane épousant un artiste et Miss Sylvia Harley devenant la femme de Richard Norton, les deux amies avaient suivi, l'une et l'autre, les hasards d'une existence nouvelle. Les confidences par lettres avaient succédé tout d'abord aux chères confessions intimes, puis les silences étaient venus avec les séparations plus profondes, Liliane partant pour l'Europe avec son premier mari et Sylvia demeurant aux États-Unis à côté de Norton. Il y avait eu une interruption forcée de relations et d'amitié, Sylvia laissant passer les jours dans le calme le plus absolu, Liliane se laissant emporter comme un bras de plume à tous ses caprices, rêvant de la vie active et surchauffée des femmes à la mode, posant à peine le pied à Paris pour assister au vernissage, au concours hippique et au grand prix, et faisant le lendemain ses malles pour Dinard, puis y revenant, mais pour prendre un sleeping-car et se rendre à Menton ou à Pau. De son premier mari, le peintre Harrison, Liliane, elle avait francisé son nom et signé Liliane avec un E, ne se souciait plus, ne parlait jamais, et essayait de se féliciter d'avoir divorcé et de porter le nom de son second mari, Montgomery, qui lui donnait l'illusion de se parer d'un grand nom de France. Ce nom, qu'elle eût voulu plus authentique, elle le promenait au mardi de la comédie, à Cotteret, à Biarritz, aux fêtes des fleurs de Nice, sous les gais confettis italiens, cette neige du carnaval. Elle revenait tout justement de la station d'hiver, lorsque M. Montgomery, son mari, lui avait annoncé l'installation de M. et Mme Norton dans l'hôtel bâti par le raffineur Bonnivet, revendu à la duchesse d'Escar et acheté 3 millions tout net par Richard Norton, qui y avait enfoui pour 4 ou 5 millions d'œuvres d'art. Montgomery, en plus d'une affaire, était l'associé de Norton, et le hasard voulait que l'affection unît précisément les deux femmes comme l'intérêt et l'estime unissaient les maris. Dès son retour à Paris, 2 mois avant ce séjour à Trouville, Liliane arrivait toute joyeuse chez Madame Norton et lui sautait au cou, l'interrogeant, la regardant, la trouvant toujours tout à fait jolie, et avec sa grâce un peu frêle, ses traits fins et son air doux. Elle, grande, étincelante, les cheveux fauves, la taille fine et les épaules larges, avec son grand cou élégant et fier, demandait à Sylvia « Comment me trouvez-vous ? Est-ce que je n'ai pas trop engraissé ? Je fais des exercices de clown pour ne pas devenir énorme. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai 25 ans. Je serais désolé de me voir bouffi. » Et en cette première rencontre, dans le laisser-aller de ces causeries de renouement d'amitié où se rassemblent un à un tous les fils du passé, comme les fibres d'une chair amputée, les deux amis s'étaient retrouvés, tels que jadis, échangeant non plus leurs rêves cette fois, mais leurs souvenirs, leurs déceptions. Toutes deux avaient encore présente cette première causerie, ces confidences qui revenaient plus d'une fois à Sylvia et l'effrayaient. « Vous êtes, répétait alors Sylvia, la première personne dont la rencontre à Paris me cause une joie, ma chère Liliane. Eh bien, c'est gentil pour les Parisiens, ça, disait Madame Montgomery en riant. Et Sylvia, toujours triste, d'ajouter doucement, « Il ne saurait être question d'eux puisque je ne les connais pas. » Et, certaine que Mrs. Norton, par une réception, un concert, une fête, un tapage quelconque, tout ce qu'elle aimait, elle, Liliane, poserait quelque soir sa candidature à une de ces royautés parisiennes qui durent parfois une saison et ont les chroniques mondaines pour moniteurs officiels, Madame Montgomery attaquait tout de suite, dès cette première entrevue, la question intéressante. « Ma chère Sylvia, si vous ne connaissez pas les Parisiens, tant mieux pour vous. C'est une amusante connaissance à faire, très gai, très fin, un peu gourmé pourtant. Oui, vous ne vous figurez pas, ma chère, Paris devient anglais. Il me rappelle Londres. Si nous n'étions pas là pour y jeter, avec nos dollars, un peu de notre fantaisie du Nouveau Monde, on s'y ennuierait comme dans une résidence allemande. Alors, Paris vous plaît ? Beaucoup. Depuis que j'y ai entraîné M. Montgomery, je ne m'y suis pas ennuyé un moment, pas une minute. Et pourtant... » Liliane s'était arrêtée, le cœur gros et soupirant. Cœur qui soupire. « Et pourtant quoi ?» avait demandé Sylvia. « Rien. Vous êtes heureuse, vous, Sylvia. Vous avez un mari tout à fait aux côtés. Vous dites ? Je dis que Richard Norton vaut considérablement. Il n'est pas prince, il n'est pas duc, oui, voilà tout ce qui lui manque, mais il est charmant. Oh, charmant, vous devez l'aimer beaucoup. » Il y avait dans le caquetage amusant de la jolie américaine une belle humeur si éclatante, un bonheur et comme une insolence de vivre telle, que la mélancolie de Sylvia s'en trouvait tout de suite diminuée. Le babillage de Liliane faisait à la jeune femme l'effet d'un cordial qui eût pétillé comme du champagne. Sylvia la retrouvait, après un divorce, telle qu'elle l'avait connue jeune fille, cette belle Liliane qui, autrefois, à New York, rêvait de porter une couronne, savait par cœur l'armorial de presque tous les pays d'Europe, et se demandait si elle n'allait point supplier son père d'acquérir l'article ainsi annoncé par le New York Herald, à vendre, blason et usage du nom d'une aristocratique famille d'Europe, avec l'histoire de la dite pour 1100 $, adresse Rudolph Smith, aux soins de L. Mercer, 142 Smithfield Street, Pittsburgh. Mais il lui fallut voir comme le père de Liliane, pénétré jusqu'au moelle de sentiments démocratiques, parlait de cette fausse aristocratie d'Europe dont on achetait le titre pour quelques dollars comme s'il se fût agi de ballots de café. Liliane, alors, qui aimait et respectait son père, laissait là ses rêves nobiliaires. Mais Sylvia l'avait surprise plus d'une fois, lisant l'Inter-Ocean, ce journal qui publie la liste des célibataires disponibles de la cité, à l'usage des dames, avec description de leurs personnes, leurs relations sociales, leurs affaires, leurs habitudes de vie et autres informations intéressantes. Et lorsque Sylvia demandait à son amie « Que cherchez-vous dans cette gazette ?»« Moi ? Un mari titré comme un Montmorency, » répondait Liliane en riant. L'amour, un amour-passion, feu de paille envolé en fumée, l'amour qu'elle avait eu pour Harrison, lui faisait d'abord oublier sa fièvre d'honneur nobiliaire, fièvre qui est un peu la maladie générale dans la République du roi Coton. Mais divorcée par colère et remariée par convenance, parce que Montgomery était riche et lui avait paru dévoué, Liliane revenait malgré elle à ses songeries de jeune fille et reprochait seulement à Richard Norton, comme au pauvre Montgomery, de n'être ni duc ni prince. « Mais, ma chère Sylvia, en dépit de ce défaut, votre mari, vous l'aimez. Comment ne lui serais-je pas reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi ?» répondait Sylvia. « Monsieur Norton n'aime point Paris. Il y est venu parce qu'il prétend que le docteur Farjas peut seul me guérir de cette espèce de maladie qui m'amine, une sorte d'anémie, une affection cardiaque. Je ne sais pas trop quoi. Norton a eu des soucis d'affaires à New York, et il a tout quitté pour cette vie nouvelle qu'il s'efforce de me rendre en France, aussi brillante et aussi enviée que possible. Je ne connais pas d'homme meilleur, d'amis plus dévoués, de cœur plus loyal. Liliane écoutait, examinant Sylvia avec un petit sourire narquois. « Allez, allez toujours, » fit-elle. « C'est terrible ce que vous dites là, tout simplement. Terrible. »« Comment terrible ? Vous êtes donc toujours aussi railleuse qu'autrefois, ma chère Liliane. »« Railleuse, oh, railleuse, pas du tout. »« Mais, ma pauvre amie, vous avez des façons de faire l'éloge de votre mari qui me font penser à la manière dont je parle du mien, moi. Très gentil, ce bon Montgomery, très dévoué, soumis à tous mes caprices, guettant pour la satisfaire la moindre de mes fantaisies, mais Montgomery, voilà. Montgomery avec un M. Montgomery de la 2e avenue, conserve et liqueur. Ah, cher, croyez-moi. Tous mes instincts aristocratiques sont heurtés par ce souvenir-là. Il me semble, quand on parle des vrais, des seuls Montgomery, des Montgomery légendaires, des Montgomery de l'histoire, oui, il me semble qu'on me frotte l'épiderme avec une brosse de crin, j'en saignerai. S'appeler Montgomery et n'être qu'une fausse Montgomery, une Montgomery d'importation, une Montgomery de l'almanach Bottin au lieu de l'almanach Gotha. Vous devez comprendre ça, vous qui êtes aristocrate comme toute bonne républicaine d'Amérique. Je comprends, et la voix de Sylvia était devenue douce, lente, résignée, que si vous aimez M. Montgomery, vous devez être heureuse. Et je comprends que vous n'êtes peut-être pas, vous, très, très heureuse, parce que Richard Norton est, comment disiez-vous, il y a un moment, le cœur le plus loyal, l'ami le plus dévoué. Ah, pas tant de compliments quand on aime. Je dirais mieux, cela ne fait rien du tout de dire d'un homme, ah, le misérable, ah, quel misérable, mais je l'adore. Au contraire, ce misérable devient immédiatement un ange. C'est ce que je disais d'Harrison, tenez. Harrison, oui, le prédécesseur de Montgomery. Mais si vous adoriez ce monsieur Harrison, alors, ma chère Liliane, pourquoi avez-vous divorcé ? La belle Liliane avait eu dans les yeux l'éclair rapide d'une colère passée, puis, haussant les épaules, « Pourquoi ? Pour une raison bien simple, il me trompait. Un peintre, des modèles. Il prétendait qu'il ne pouvait me faire poser éternellement devant lui. Moi ? Cela aurait donné une ennuyeuse uniformité à sa peinture. Toutes ses figures de femmes se ressemblaient. Les clients se plaignaient. C'était malsain pour son talent. Il fallait changer. La nécessité, l'amour de l'art. Je n'ai pas compris. Jalousie, scène, appel à la loi, 1 an de procès, plaidoirie. Et le tout terminé, adieu, Madame Harrison. Et vive, Madame Montgomery. Madame Montgomery, de là-bas. Ajoutait Liliane avec un soupir qui faisait sourire Madame Norton. Plaignez-vous donc, disait alors Sylvia. Monsieur Montgomery est très aimable. L'ami le plus dévoué, le cœur le plus loyal, répétait Madame Montgomery imitant le ton de Madame Norton. Et comme Sylvia en parut tout à coup un peu attristée, je vous demande pardon, fit Liliane. Ce que je vous dis là est méchant. D'autant plus que mes ennuis à moi ne tirent pas à conséquence. Un peu folle, votre amie Liliane, vous savez. Tandis que vous, si vous êtes mélancolique, c'est que vous souffrez. Non, je me trompe. Voyons, disait-elle, en prenant les mains de son amie avec une tendresse vraie. Un de ces mouvements de confiance absolue qu'ont les femmes. Un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout. Madame Montgomery hochait la tête. Voyez, Sylvia, comme je suis peu physionomiste. Vous rappelez-vous qu'il y a 5 ans, j'ai votre père, à New York? J'étais alors Madame Harrison. Ah, le misérable, cet Harrison. Un jeune homme venait souvent, souvent. Un Français que nous trouvions tout à fait, comment dirais-je, tout à fait convenable. Monsieur de Solis. Le marquis de Solis, oui. Ah, vous n'avez pas oublié le nom, ni moi, marquise. Cela m'eut assez souri d'être marquise. Madame la marquise de Montgomery. Joli coup de clairon pour l'entrée dans un salon. Eh bien, ce marquis de Solis, Georges de Solis, tiens, même le prénom qui me revient. J'aurais cru... Vous auriez cru Rien, une de mes idées folles. Vous savez que j'en ai beaucoup. » Madame Montgomery souriait toujours pendant que Sylvia essayait de paraître indifférente à ce babil dont le grelot léger sonnait pourtant le glas d'un cher passé disparu. Mais Liliane revenait à cette autre fois avec une fébrile curiosité de femme. « Il était absolument épris de vous, monsieur de Solis. »«
Oh, épris. Une Parisienne dirait qu'il était toqué de vous.
Liliane !» Et la voix de Madame Norton, un peu étouffée, se faisait sévère.
« C'est le mot qui vous choque, toqué. »«
Ah, vous en entendrez bien d'autres sur le boulevard. »«
Vrai, j'aurais parié, moi, que monsieur de Solis m'aurait demandé en mariage, n'est-ce pas ?»«
Eh bien, vous auriez perdu, ma chère Liliane, » fit Sylvia d'un ton bref, presque souffrant. « Et d'ailleurs, mon père ?»«
Votre père n'aurait pas consenti. »«
Mais fort heureusement, en Amérique, nous nous marions nous-mêmes, de notre propre volonté, et nous disposons de notre main sauf à nous en mordre les doigts. »
Ah oui, à nous les mordre jusqu'au sang.
Et comment votre père, qui n'était pas un parvenu comme tant d'autres, ou un philosophe dédaigneux comme le mien, mais un pur Américain, n'aurait-il pas été enchanté de vous voir marquise ?
L'entretien, en dépit de sa légèreté, du ton plaisant de Madame Montgomery, semblait devenir pénible à Sylvia, qui, essayant de n'attacher aucune importance à toutes ses paroles, dit cependant d'un ton ferme,
« Laissez, laissez tout cela, je vous en prie. Le passé est passé. J'ai pu, dans mes confidences de jeune fille, vous faire deviner un peu de mes rêves, mais il y a longtemps qu'ils ont pris leur volée. »«
Oui, mais s'ils sont bien apprivoisés, les oiseaux reviennent. Vous n'avez jamais entendu reparler de monsieur de Solis ?»«
Jamais. Et je vous serais même gré de ne plus m'en entretenir. »«
Sylvia !»
faisait Liliane.
« Ne dites pas cela, ma chère Sylvia. » Cela me fait croire que la petite blessure n'est pas tout à fait cicatrisée.
Pensez donc, on dirait que vous avez peur de ce monsieur.
Mais si votre mari vous entendait, cela le rendrait jaloux. Et si monsieur de Solis était là, cela le rendrait fat.
Heureusement, il est loin, monsieur de Solis.
Ah !
Il y avait comme du regret dans l'exclamation de Sylvia.
Très loin.
Liliane ajoutait, curieuse. Vous ne lisez donc pas les journaux ?
Peu.
Moi, comme toute bonne Yankee, j'en reçois des ballots et je les dévore. D'abord parce qu'ils parlent de moi.
C'est amusant. La belle Madame Montgomery. La dernière toilette de Madame Montgomery. Déplacement et villégiature de Madame Montgomery.
Il y en a qui risquent le deux Montgomery.
Donc ça me fait soupirer.
Oh oui, soupirer et sourire.
Et puis ils me tiennent au courant de mes amis d'Amérique.
Oh, ils ne se donnent pas un souper chez Delmonico, notre café anglais à nous, que je n'en connaisse le menu.
C'est très amusant, très amusant.
Eh bien, monsieur de Solis, je ne sais pas où j'ai lu ça. Monsieur de Solis voyage. Il risque sa vie je ne sais où pour je ne sais quoi. Mais il a failli être assassiné et un peu décapité par les pavillons noirs ou jaunes, on ne sait pas au juste la couleur.
Ah !
Avait fait encore Sylvia d'un ton qu'elle voulait rendre indifférent.
Aussi, quoi, on ne va pas chez les pavillons noirs. On va à Paris quand on n'y est pas né et on y reste quand on est parisien.
C'est bien votre avis, Sylvia.
Certainement, mais...
Mais quoi,
monsieur de Solis ?
Ah, il vous intéresse encore.
Eh bien, mais il est sain et sauf, monsieur de Solis.
Il a joué du revolver, monsieur de Solis.
Ce pauvre cher revolver américain dont on dit tant de mal, il s'en est servi, ce pionnier de la civilisation. Et alors les pirates, chinois ou autres, envolés, pfft, comme vos rêves. Ne vous inquiétez pas du marquis, plus aucun danger, aucun.
J'en suis bien heureuse, très heureuse.
Elle souriait maintenant à Madame Montgomery qui la regardait.
Mais, ma pauvre Sylvia, vous êtes toute troublée.
Ce n'est pas mon histoire, au moins.
Non, mais cette nervosité maladive, dont me guérira difficilement le docteur, me cause à tout instant de petites secousses. Je suis vraiment trop impressionnable.
Bah, avait dit en riant Madame Montgomery, je ne compte pas sur le docteur Farjas pour vous guérir, je compte sur le docteur Paris.
Ah, cher Paris, quel médecin! Il en a sauvé bien d'autres.
Et toujours gaie, heureuse, toujours en l'air.
Il est vrai qu'il en a tant perdu. Mais les Américains, eux, s'y retrouvent toujours.
Il y avait deux mois passés, que les deux amis avaient échangé ses confidences à Paris, dans la rue Rembrandt, et de cette causerie avec Liliane, Sylvia avait gardé un souvenir troublé, une sorte d'inquiétude, repensant à ce Georges de Solis qui lui était apparu là-bas, chez son père, et qu'elle avait pu croire le fiancé, l'époux, l'être choisi et aimé. Un passant, ce marquis de Solis. Il était venu et il était reparti, après avoir deviné pourtant que Sylvia se sentait attirée vers lui, et lui-même n'avait-il pas laissé la jeune fille lire en lui? Ne s'était-il point dit l'un à l'autre de ces mots qu'on n'oublie jamais, jamais plus? Georges de Solis. Pourquoi était-il parti, presque subitement, laissant Sylvia attristée, Sylvia qui était résolue à demander à M. Harley, son père, de l'unir à ce gentilhomme français? Il le lui avait murmuré pourtant, il le lui avait involontairement laissé soupçonner, l'aveu d'un amour qui, tout à coup, s'était comme effacé, envolé. Pourquoi? Elle l'avait deviné depuis. Mais au premier moment, la douleur avait été cruelle chez Sylvia. Oui, elle l'avait deviné. Monsieur de Solis s'éloignait parce qu'il la croyait riche, disparaissait pour n'être pas accusé, lui étranger, de viser par le mariage la fille d'un des plus riches banquiers de New York, s'il avait su que la ruine était si proche. Et en songeant à ce passé, en revivant ces journées enfouies que le babillage de Liliane lui avait rappelées, toute vivante encore et bourdonnante, comme un essaim d'abeilles à court au bruit du cuivre, Sylvia se revoyait dans sa chambre de jeune fille, accablée et triste, pensant à M. de Solis qui n'était plus là. Il avait emporté une de ses illusions, une de ses confiances. Elle s'était crue aimée. Puis, dans le logis paternel, entrait, timide, avec sa loyauté d'homme et sa naïveté d'enfant, Richard Norton, qui, poussé par le père, demandait à Sylvia si elle consentirait à unir sa vie à la sienne. Et devant les prières de M. Harley, la jeune fille faiblissait, consentait. Il lui semblait, puisque M. de Solis ne donnait plus de ses nouvelles, puisqu'il n'aimait plus sans doute celle qu'il avait paru aimer, il lui semblait qu'il valait mieux se sacrifier sans réflexion, sans hésitation, puisque, pour elle, ce mariage qui apportait une joie inespérée à Norton, une consolation à M. Harley, était un sacrifice, l'immolation d'une espérance. Elle estimait d'ailleurs Richard Norton. Elle avait fermé le roman inachevé et se disait qu'avec un homme de cette vaillance et de ce dévouement, sans doute, elle pouvait commencer l'histoire d'une vie heureuse. Et alors, dans toute l'honnêteté de son cœur, elle répondait au pasteur qu'elle suivrait l'époux choisi partout, toujours, dans la bonne ou la mauvaise fortune. Elle la revoyait cette journée qui avait décidé de sa vie. Là-bas, dans le grand salon de New York, Norton avait envoyé, fait suspendre au plafond, une immense cloche de fleurs, une cloche faite de roses de toutes couleurs, depuis la rose thé jusqu'à la rose pourpre, et là, sous ce marriage bell, sous cette cloche fleurie, le pasteur avait uni Richard à Sylvia, devant le livre de la loi, la Bible ouverte, et qui allait se refermer sur un serment. Cloche de rose rouge et rose pâle, que deux fois depuis lors, Sylvia Norton l'avait entendue sonner. Sonner joyeuse parfois comme un carillon d'espérance, sonner plus souvent comme un glas, le glas de l'amour disparu, de l'amour mort, et qui cependant, au fond du cœur, semblait revivre. Oui, revivre, lorsque le souvenir de Liliane allait vers lui, comme à la dérive, ou lorsque l'étourderie d'une écervelée ramenait à se passer la songerie de la jeune femme. Et c'était cela qu'avait fait Madame Montgomery le jour où elle avait rappelé à Sylvia tout ce passé évanoui. Mais cette émotion ressentie lorsque les deux amis s'étaient retrouvés, Sylvia l'éprouvait plus violente peut-être maintenant, et là, assise près de Liliane, qui tentait de l'égayer, elle pensait à ce que Norton lui avait annoncé tout à l'heure, la présence du marquis à Trouville, l'invitation que Richard lui avait faite. Oui, ce soir même, probablement là, dans ce salon, Monsieur de Solis reparaîtrait. Et dans le bruissement des causeries, dans le babil et les rires que Miss Arabella accompagnait d'un refrain de quelque opérette de Sullivan, Sylvia regardait la porte du salon, redoutant presque l'apparition du visage de Georges de Solis. Quoi, il allait se montrer brusquement? Et devant ces gens dont quelques-uns lui étaient si indifférents, il lui faudrait traiter froidement cet homme dont elle avait rêvé de partager la vie? Elle s'efforçait de paraître calme, souriante, aimant mieux, après tout, puisqu'elle devait revoir le marquis, aller droit à lui, tendant une main qui tremblerait peut-être un peu, mais qui serait la main d'une honnête femme et d'une amie. Et assise à côté de Liliane, pendant que le sourd, lointain, continu murmure de la mer montante roulait, là-bas, sur la plage, avec son rythme majestueux, mélancoliquement, dans le bruit berceur des flots, elle entendait, lointaine aussi, et comme noyée dans ses murmures, les cloches des fiançailles, les tintements du marriage bell, les sons attristés de la cloche de rose, des pauvres roses fanées. Elle regardait Norton aussi, découpant sa large carrure sur l'horizon clair, à côté de la silhouette, droite comme une perche à houblon du colonel Dixon. Richard fumait un dernier cigare et Montgomery était allé le rejoindre. Puis, le cigare achevé, Norton revenait à ses invités et prenait des mains d'Eva un peu de cumel, tandis que le docteur Farjas, avec ses longs cheveux blancs, son menton rasé et son profil d'aigle, trempait ses lèvres dans un petit verre d'argent et déclarait à Norton qu'en dépit de son horreur des alcools, il trouvait cette eau-de-vie délicieuse. « Elle est célèbre dans tous les cas, » disait Norton. « Dans les deux Amériques, l'eau-de-vie de M. Norton est fameuse, » ajoutait Montgomery. « Elle est française, du reste, mon cher docteur, » fit Norton. « Que cette indication vous rassure. Cognac n'a jamais produit rien de mieux. J'ai acheté ça à un capitaine de navire qui, de toute une fortune, n'avait gardé qu'un fût de cette eau-de-vie dont il ne voulait pas se séparer. Peut-être tenait-il à se noyer dedans, comme Clarence dans le Malvoisie. Je lui ai payé cela au poids de l'or. Il a tenté la fortune, il n'a pas réussi. Et comme un imbécile, s'est fait sauter la cervelle. Au lieu de recommencer, ce qui est si simple, et de lasser la mauvaise chance, ce qui n'est pas toujours facile, mais n'est jamais impossible. J'ai des remords, parfois, de lui avoir acheté son alcool. Il se fût grisé avec. Cela l'eût consolé. Il serait peut-être encore vivant. « Cela dépend, » dit le docteur Farjas. « La manie du suicide est parfois indépendante des souffrances morales. Affaire d'hérédité. L'atavisme joue aussi son rôle là-dedans. » Richard Norton, debout et son verre de cognac à la main, frappa doucement sur l'épaule du médecin étendu sur un divan. « Ah, ces docteurs, diable de docteur, il faut qu'ils mettent de la fatalité en tout. »« Nécessairement. La théorie de l'hérédité a remplacé dans le monde moderne la fatalité antique. Et alors, le suicide, affaire de fatalité ?»« D'une fatalité de tempérament, oui, très souvent. » »« Alors vous ne croyez pas aux maux insupportables et qu'on rejette comme un fardeau qui nous pèse trop ?»« Mon cher monsieur Norton, » répondit le docteur Farjas, « je ne crois qu'à trois choses insupportables, la misère, la maladie et la mort. Et pourtant l'humanité passe son temps à avaler celle-ci et à supporter celle-là, sans suicide. Peste. Si l'on se tuait pour tout ce qui nous agace ou nous navre, le monde finira vite. Et alors la vie, vous la trouvez excellente. » Et Norton semblait pousser le docteur Farjas à quelques théories pessimistes. « Ma foi, je ne la trouve point parfaite, » fit le médecin. « Mais comme la mort qui la termine est 80 fois sur 100 plus vilaine que les souffrances qui la composent, je préfère encore, après avoir étudié l'un et l'autre, la vie, toute maussade qu'elle est parfois, à cette fameuse délivrance qui est une délivrance sans appel. Ceci dit, mon cher Norton, lorsque vous avez quelques chagrins, ne pensez pas au suicide, et laissez-la à des imbéciles comme votre vendeur d'eau de vie. Mais vous n'avez pas à craindre ça, vous êtes un homme heureux. « Oh !» dit l'Américain, « j'ai l'habitude de me colter avec la nécessité. » Il regarda avec une sorte de défi, d'orgueil mâle, les amis qui autour de lui dégustaient le cognac du capitaine. Puis, avec la fierté d'un fils de ses œuvres, sans la moindre infatuation qui sentit le parvenu, « moi, je vivrai aussi facilement avec rien, je dis absolument rien, qu'avec mon présent train de maison. Et, ma parole, je n'ai besoin que pour les autres des millions de dollars que le sort m'a donnés. » Le murmure d'incrédulité de Montgomery et la protestation courtisanesque du colonel Dixon se formulèrent bien vite par une interruption du docteur. « Oh, le sort, le sort! Et votre travail, mon cher monsieur Norton, et votre habileté, et votre patience. Et la chance ?» précisa l'Américain. « Oh, parfaitement, la chance aussi. Il ne faut pas être si fier de ses succès en ce monde. Et si l'on se dit, ce qui est vrai, que la chance est bien souvent la collaboratrice de toute victoire, eh bien, ce n'est pas mauvais. ça nous rend pitoyables pour les pauvres et indulgents pour les vaincus. C'est que j'en ai tant connu, moi, de braves gens qui suaient sang et eau toute leur vie et arrivaient à quoi? À rien. Ou sans atavisme, mon cher docteur, sans hérédité, quoi que vous en disiez, au suicide, comme mon bonhomme de capitaine. Oui, j'ai bien pioché. Oh, rudement, bravement. Je crois certainement qu'il me reste de ce temps-là des crevasses aux mains. Je n'en rougis pas. Quand je pense, tenez, et appuie à la cheminée, les yeux mi-clos, comme bercés par un bon souvenir, il se laissait aller doucement vers le passé. La date me revenait ce matin en écrivant mon courrier. Il y a 30 ans, moi, Richard Norton, je conduisais une barque sur l'Hudson et j'aidais mon père, mon brave et saint homme de père, à fendre le bois. Oui, quand je pense à ça, j'ai eu beau travailler depuis, courageusement travailler, et toujours à présent vous ne m'empêcherez pas de me dire que la chance m'a favorisé, car elle m'a donné la fortune, et avec la fortune, la chère femme pour qui je donnerais cette fortune-là. » Il avait dit cela d'une voix assurée, debout, cherchant des yeux Sylvia qui écoutait, muette, avec un sourire de reconnaissance dévouée. « Monsieur Norton, dit Liliane en riant, prenez garde, il ne faut jamais parler de son bonheur si haut. » Norton la regarda un peu inquiet. « Je sais, cela tente le sort, mais je lui paye rançon. Croyez-vous que si la santé de Mrs. Norton ne l'exigeait pas, j'aurais jamais quitté New York pour Paris ?»« Oui, dit Richard en souriant Farjas. Oui, c'est la faute de ce cher et illustre maître si je suis ici. »« Ma faute ? » fit le savant. « Oui, votre faute. Je vous ai proposé de venir à New York soigner spécialement, vous, le grand devin des maladies nerveuses, Mrs. Norton. »« Et j'ai refusé, » dit Farjas. « Je vous offrais une fortune. Ce que vous auriez voulu, oui, carte blanche. »« Guérison à forfait, mais... » répondit très simplement le docteur. « Je vais à Paris tout mon service d'hôpital. De pauvres diables qui ne m'offraient rien du tout. Dans ces cas-là, vous concevez, on n'hésite pas. » « Pas américain, le docteur, » murmura M. de Bernière à Miss Eva qui passait près de lui. La jolie américaine fit une révérence. « Mais digne de l'être, vous avez raison, » répondit-elle. Et Bernière se pinça les lèvres pendant que la belle Arabella lui disait avec son gentil accent yankee. « Écoutez donc ce morceau, monsieur le vicomte. Il est encore mieux quand je le joue sur le violoncelle. » « Et après tout, » continuait Farjas qui s'est élevé, ce qui convenait le mieux à votre chère malade, qui n'est plus aussi souffrante. Non, madame, non, vous n'êtes déjà plus très intéressante. C'était la distraction, les voyages, le changement d'air. La terre est grande. Et la meilleure ordonnance, 9 fois sur 10, s'écrit sur un ticket de chemin de fer. Système excellent, d'ailleurs. Si les malades guérissent à distance, le médecin en a tout le mérite. S'ils ne guérissent pas, il n'en a plus la responsabilité. Il est si loin. Alors, dit encore Norton, j'ai transporté à Paris une partie de ma galerie de tableaux. J'ai fait meubler rue Rembrandt la chambre de Mrs. Norton, de manière à ce qu'elle se crût à New York, chez nous, dans notre maison américaine. Et j'espère bien que, Paris aidant, et Trouville par-dessus le marché, je ramènerai là-bas ma femme souriante, guérie, et pour toujours, ah, le beau rêve, heureuse. J'y compte bien aussi, fit le docteur Farjas. Et Madame Norton n'a pas mis mes ordonnances en défaut. Plus de nerfs, n'est-ce pas ? Plus du tout, répondit Sylvia qui s'efforçait de sourire. Oh, les nerfs, ajouta Madame Montgomery en riant. Une femme s'en sert comme de son éventail pour les besoins de sa cause. Est-ce qu'on a des nerfs ? Le gros Offenburger s'était approché, les yeux allumés, quand Norton avait parlé de ses tableaux comme s'il eût entendu compter un sac d'écus. Collectionneur d'œuvres d'art, il savait que la galerie Norton était célèbre. « Diable, cher monsieur Norton, vos tableaux, disiez-vous, vous les avez fait transporter en France ?»« Ce que Mrs. Norton préfère, oui, mais Rousseau, mais Jules Dupré. » »« Et, continua le banquier, aviez-vous pris la précaution de les faire assurer au moins ?»« Oh, l'assurance est la règle de tout bon Américain, » fit Norton. « Très hardi, le Yankee, mais très prudent. » Mes tableaux valent une fortune, eh bien, mes mesures sont prises. Si je les perdais, on me rendrait une fortune. Voilà. Ce que je voudrais trouver, je le répète sans cesse, comme un refrain. Et il riait. C'est une compagnie qui assurera le bonheur.
Si elle se fonde, cette compagnie-là, dit le docteur Farjas, ne prenez pas de ses actions, elle fera de mauvaises affaires.